J'espère que vous êtes convaincus que l'Esprit de Dieu parle. Il est en train de vous parler, il a parlé déjà ce matin. Et je remercie Émile parce que le Seigneur m'a donné quelque chose à partager pendant... Ça a été incroyable d'ailleurs, j'ai vécu un moment pendant mes vacances. Le Seigneur m'a donné quelque chose à vous partager ce matin. La seule chose qu'il ne m'avait pas donné, c'est l'entame. Je ne savais absolument pas comment commencer parce qu'il m'a donné 3 questions à poser. Mais je dis, mais comment je vais commencer pour lancer ces 3 questions? Et je m'arrêterai sur l'épisode que Émile a donné où le peuple, l'armée d'Israël, fuyait. Elle a abandonné le combat et elle s'en allait. Les 3 questions que je vais tutoyer parce que je sais et je suis persuadé que ce message s'adresse à plusieurs. Qu'est-ce qui mine ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Par qui ou par quoi as-tu été vaincu? Bien sûr, tu t'entends à ce que je dise que c'est certainement dû aux autres. C'est dû à ton passé, aux circonstances qui sont actuellement dans ta vie. Circonstances qui peut-être durent depuis longtemps. Mais moi, je vais te dire une chose, c'est que le problème que tu as, c'est comme cette armée, c'est que tu as abandonné et tu as cessé le combat. Parce que tu as cru qu'en t'asseyant, et en regardant la tempête allait se calmer et tout allait redevenir comme avant. C'est faux. C'est ce que l'ennemi veut te faire croire. Ce matin, il faut prendre la victoire. Il faut que l'allégresse revienne dans ton cœur. Il faut que tu reprennes du courage et qu'à nouveau tu reviennes avec tes frères et tes sœurs. Il faut réagir et reprendre des forces. Parce qu'en Éphésiens 6, verset 12, il y a un verset qui dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominations. » Quelles sont les dominations qui sont dans ton cœur ce matin? Est-ce que tu combats encore? Ou est-ce que tu as été vaincu? En 2 Samuel 22, 40, « Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes ennemis. » Pour vaincre l'ennemi, il faut bien le connaître. On connaît bien son ennemi, on connaît bien sa force, mais on connaît aussi ses faiblesses. Il y a des grands hommes qui étaient très puissants, et Émile en a parlé. Et il y a un petit David qui s'est levé. Il a étudié la vie, il a étudié plein de choses. Et il a vaincu. Ce matin, qui est ce géant qui ronge ta vie? Il a ses faiblesses aussi. Et devant ce géant, tu peux vaincre. Tu as la capacité de vaincre parce que Jésus a vaincu. On va parler ce matin des secrets de la victoire. Moi, j'en ai compté 5. Est-ce que vous voulez la victoire dans vos vies? Est-ce que vous avez besoin de la victoire dans vos vies? Ou est-ce que vous attendez à avoir une petite vie bien tranquille en pensant être chrétien? Parce que si votre vie est tranquille, posez-vous des questions. C'est que tu déranges absolument pas le malin. Et il n'y a aucune victoire sans combat. Aucune victoire n'est remportée sans combat. On n'est pas victorieux si on ne lutte pas. C'est pas possible. Et il y a combien de personnes qui ont cessé le combat? Combien ont cessé de lutter? Combien ont été vaincus par l'ennemi, neutralisés par l'ennemi? Et l'esprit mauvais rit. Parce qu'il dit, j'en ai encore eu un. Regarde, il s'est assis. Un chrétien qui ne travaille pas, qui ne fait rien, un prédicateur, qui ne prêche plus, qui reste dans sa petite région, qui s'assit dans son petit coin, il ne dérange pas. Il ne dérange absolument pas. Il n'y a aucun problème. J'aimerais vous raconter une petite histoire que j'ai trouvée. Et ça reflète exactement ce que je suis en train de vous dire. Et un jour, il y a un couple de chrétiens dans une église. Il y a le mari qui arrive, il vient voir le pasteur, il dit « Écoutez, je viens vous voir parce que j'en peux plus. Ça ne peut plus aller chez moi. Ma femme a des difficultés, ma femme a des luttes, elle combat toujours. Ça ne va jamais. » Le pasteur l'écoute, le regarde. Il lui donne un exemple. Il dit, voilà, vous voyez, quand deux hommes vont à la guerre, un est mis au front, l'autre est mis à l'arrière. D'après vous, lequel des deux aura le plus de difficultés? Alors l'homme réfléchit, puis dit au pasteur, ben, c'est celui qui est au front. Le pasteur lui a posé une question. Elle est où ta place? Elle est au front ou à l'arrière? Ceux qui remportent des victoires sont ceux qui sont au front. Ce ne sont pas ceux qui sont à l'arrière. Si aujourd'hui tu es assis dans ta vie, tu ne vaincras jamais. Ce message est destiné à chacun d'entre nous. On a tous des combats à mener. Et si je m'assois dans ma vie, si je refuse de lutter comme cette armée qui s'enfuyait devant les Philistins, je suis mort. Et il y a énormément de personnes qui ne travaillent plus. Il y en a beaucoup qui ont cessé le combat, qui ont posé leurs outils. Si j'ai un trou à creuser, je vais utiliser une pelle. Je ne vais pas utiliser mes mains. Ça sera impossible. Il faut ce matin que tu reprennes les outils, que tu te remettes au travail. Regardez bien autour de nous, il y a quelque chose qui me frappe. Est-ce que ce matin tu es venu avec ta Bible ? Est-ce que tu es venu avec ta Bible? Est-ce que pour toi, ta Bible, c'est une nécessité, un besoin? Est-ce que tu profites de tous les instants que Dieu t'accorde pour l'ouvrir, pour t'entraîner chez le médecin, chez le dentiste? Dans un parc, l'entraînement commence là. Chaque instant que Dieu nous donne, c'est l'entraînement au combat. Il y a trop de gens qui sont sans Bible. Faites l'expérience. Commencez à l'avoir avec vous. C'est lourd, je peux vous dire, dans une sacoche, c'est lourd. Mais qu'est-ce que c'est bien quand vous attendez chez le médecin, au lieu de lire les publics, les voici, tout ce que vous voulez, vous ouvrez votre Bible. Les nouvelles sont fraîches dans la Bible. Notre arme, c'est la Bible. Il n'y a pas besoin d'épée, il n'y a pas besoin de grenade, il n'y a pas besoin de tout ce que vous voulez. En Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il faut mettre tout à profit, toutes les armes qu'il y a dans la Bible. Il faut apprendre à s'en servir. Alors, c'est quoi le secret de la victoire? Je vais vous en donner un. On va aller dans 1 Samuel, chapitre 30. Je vais lire à partir du verset 1, parce qu'il y a un seul verset qui nous concerne ici. 1 Samuel, chapitre 30. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklath, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi. Et à Tsiklath, il avait détruit et brûlé Tsiklath. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et les femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jirel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. La partie qui nous intéresse, la voici. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Vous imaginez dans quel état de découragement était le peuple? Dans quel état d'amertume? Ils ont pleuré jusqu'à temps qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Depuis combien de temps tu pleures? Ça fait combien de temps que tu pleures dans ce combat? Est-ce que tu as encore la force de pleurer? Au verset 5, ils étaient découragés, abattus, dans la tristesse. Ils ont même accusé David parce qu'il a été incapable de les emmener au combat, parce que leur ville a été retournée. Ils étaient dans un abattement pas possible. Et David fait une chose. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Voici un des secrets de la victoire. Posséder un appui en Christ. C'est très important. Vous demandez à Anne, Barat, à quoi sert des starting blocks? Essayez de démarrer un 100 mètres sans starting block. À mon avis, vous n'allez faire aucune performance. Il faut s'appuyer sur les starting blocks. Ça vous cale et ça vous donne de l'élan. C'est un appui magnifique, comme Christ est cet appui dans nos vies. On doit s'en servir quand on a besoin de faire quelque chose, quand on doit accomplir quelque chose, quand on a besoin de quelque chose. Pour nous déplacer sur terre, on a besoin d'un appui. Parce qu'il y a la pesanteur, il y a notre poids. Et quand on est dans l'espace, c'est l'inverse, il n'y a plus aucun appui. Tout est vide. Ben moi, je te dis que quand ton cœur est vide, quand Jésus n'est plus là, ta vie, elle est trinque-ballée de tous les côtés. Regardez les astronautes dans les capsules. Ils sont boulés dans tous les sens. Et votre vie sans Jésus, c'est ça. Ta vie sans Jésus, c'est ça. Il faut prendre appui sur Christ. La même chose quand on est dans l'eau. On a besoin, le bateau aimerait bien, le capitaine du bateau aimerait bien avoir une ligne droite sans toucher. C'est impossible. Parce qu'il y a des courants invisibles sous le bateau qui l'empêchent d'avoir cette ligne droite. Tu connais tes courants invisibles aujourd'hui. Tu les connais. Tu sais parfaitement ce qui t'empêche d'aller à Christ. Le capitaine a besoin d'un petit gouvernail pour ramener la trajectoire. Et toi, ce que tu as besoin dans ta vie, c'est Christ. Christ qui, tu l'as réduit. Il est tout petit dans ta vie. Alors qu'il est capable de te redresser. Comme il redresse le bateau. Sortez le plus grand des navires et regardez le gouvernail. Vous allez voir, mais c'est petit. C'est petit. Et le bateau est immense. David a repris courage parce qu'il s'est appuyé sur l'Éternel. Ce matin, si tu as perdu courage, appuie-toi sur l'Éternel. Le deuxième secret de la victoire. Jérémie a connu l'angoisse, il a connu la dépression, il a connu des moments d'angoisse terribles. Et il dit une chose au moment où il est vraiment découragé, au moment où il n'a plus de force, au moment où l'espoir s'est enfui. Jérémie chapitre 3 verset 19 dans les Lamentations. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser sur mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il faut constamment que tu repasses sur ton cœur les bénédictions de l'Éternel, les promesses de l'Éternel. Est-ce qu'il t'a abandonné? Est-ce qu'il a accompli? N'a-t-il pas accompli son œuvre en toi? N'a-t-il pas accompli ses promesses? Ne t'a-t-il pas soutenu dans les moments les plus difficiles? Ne t'a-t-il pas porté alors que tu croyais être seul? Ne t'a-t-il pas consolé lorsque tu versais ton cœur? Ne t'a-t-il pas guéri? Ne t'a-t-il pas sauvé? Alors pourquoi tu l'abandonnes aujourd'hui? Pourquoi tu le laisses? Pourquoi tu t'assois? Pourquoi tu refuses le combat? Repasse sur ton cœur toutes ces promesses et tu verras à quel point Dieu t'aime. Tu verras à quel point il veut t'emmener plus loin que là où tu n'es aujourd'hui. Le troisième secret de la victoire, et c'est très important, c'est prendre autorité sur ce qui ne va pas dans ta vie. Prendre autorité. Il arrive un moment donné dans le livre de Samuel, et vous connaissez parfaitement cette histoire. L'armée d'Israël est en campagne. Elle a devant elle les Philistins. Et le peuple est dans une consternation incroyable. Le peuple est dans une peur incroyable. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont prêts à faire demi-tour. Même Saül, qui était plus grand que le peuple, il dépassait le peuple d'une tête. Même lui avait peur. Lui qui avait remporté des victoires, il avait peur. Ils étaient minés de l'intérieur. Ils étaient complètement découragés. Saül cherchait de l'appui. Il n'en a pas trouvé. Ils avaient devant eux Goliath, le géant. Ce géant qui a complètement paralysé l'armée d'Israël. avec toute cette puissance, toutes ces armures, ils étaient paralysés. Il y a une personne qui s'est levée, un petit berger, le plus faible d'entre tous, sans force, sans apparence. On présume qu'il avait 12 ans. Il va dire une chose qui va se répercuter sur toute l'armée d'Israël. Et souvent dans nos vies, on trouve des gens qui nous découragent au lieu de nous encourager. Mais David va encourager le peuple. Et c'est déjà dans ta famille, au milieu de ta famille, qu'il faut déclarer les choses, qu'il faut dire les choses. Il va parler au peuple et il va dire que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Et il va dire à Saül, ton serviteur ira se battre avec lui. Qu'est-ce qu'il fait, Saül? Il le regarde d'un air méprisant. Il lui dit, mais tu es tout petit, David. T'as pas d'expérience. T'as pas d'habit de soldat, t'as même pas d'armure. Il a oublié une chose, c'est que David avait la foi en son Dieu. Et il va engager sa foi. Il va dire à David et au peuple, il a insulté l'armée de l'Éternel. C'est au nom de l'Éternel des armées que j'irai affronter ce géant Goliath. Et l'Éternel le livrera entre mes mains. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Il engage sa foi en l'Éternel. Il sait qu'il va vaincre. Aujourd'hui, tu es peut-être aveuglé par tes problèmes, aveuglé par ce géant. Tu as abandonné la partie. Moi, j'aimerais te dire une chose ce matin. L'Éternel, non. Lui n'a pas abandonné. Il y a Gédéon. Gédéon disait, mais je suis le plus petit dans ma famille. Ma famille est la plus petite. Et pourtant, il a été choisi par l'Éternel pour aller délivrer Israël. Et Gédéon n'a pas commencé par haranguer les autres. Il a commencé par sa propre famille. Et vous le savez ce qu'il a fait. Il a renversé l'idole de son père. Il fallait quand même avoir du courage. Il fallait avoir du courage. Il a renversé l'idole de son père. David a eu aussi du courage. Il a affronté Goliath. Mais d'abord, il lui a fallu affronter le mépris de sa famille, le mépris de ses frères. Et il a remporté la victoire. Et Gédéon aussi a remporté la victoire. Est-ce que tu veux, ce matin, remporter la victoire sur ton Goliath? Gédéon a été vainqueur, il a conduit le peuple parce qu'il a osé affronter son père, affronter sa famille, affronter l'opposition en disant non, faut qu'on ramène le peuple à l'Éternel. Il a renversé cette idole et ils ont remporté la victoire. Est-ce que tu as osé ce matin prendre autorité sur les choses qui sont dans ta vie, sur les choses qui t'ont fait que ce matin tu es assis? Est-ce que tu as pris autorité sur ta famille, sur tes amis, sur tous ceux qui t'empêchent d'être droit? Tu ne peux pas vaincre si tu ne le fais pas. Gédéon, il a dû renverser l'idole de son père. David, il a dû affronter le mépris de sa famille. Et c'est ça qui leur a donné la victoire. Peut-être que ce matin, il y a des choses que tu dois renverser dans ta vie. Mais garde ça sur ton cœur. Il faut que tu prennes autorité sur ces choses dans ta vie pour combattre le bon combat, pour affronter les tiens, ton conjoint, ta famille. Et grâce à Dieu, tu seras vainqueur. Parce que le combat, c'est Dieu qui va te le donner. Il va te donner cette victoire. Et si tu restes assis, si tu ne pratiques pas, inexorablement, ça sera la défaite. Le quatrième secret, c'est regarder à Jésus. Le psaume 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Elle est où ta honte ce matin? Je sais que dans tes profondeurs, tu es honteux parce que tu te sens méprisable. Tu ne te sens pas à la hauteur. Ton visage le montre. Ton cœur le montre, tes prières le montrent, parce que tu as détourné ton regard de Jésus, parce que la lumière de Christ n'est plus sur ton cœur. Tu es en train de t'éteindre et tu ne réagis pas. La lumière qui éclairait ton cœur a disparu et tu as été vaincu. Au lieu d'élever les regards, tu as abaissé tes yeux sur ta condition, sur ton existence. Et aujourd'hui, tu es comme celui qui attend un bus, qui est à l'arrêt de bus. Il sait qu'il y a une grève, mais il est à l'arrêt de bus parce qu'il a l'habitude d'y aller. Mais il n'y a rien qui va venir. Il n'y a personne qui va venir. Tu peux attendre, rester assis. Personne ne viendra. David a vaincu parce qu'il a mis sa confiance en l'Éternel. Elle est où ta confiance ce matin? Il est où ton regard ce matin? On parle de la croix. Est-ce que tu as le regard sur la croix? Est-ce que tu as les regards sur ton salut? En Hébreux chapitre 12, verset 22, il est écrit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Il est le chef, c'est lui qui nous donne la force. Ayez sur lui vos regards. C'est un des secrets de la victoire. Gardez les yeux sur Jésus. Il y a peut-être trop longtemps que tu as cessé de regarder. Tu t'es affaibli, tu t'es rendu vulnérable. Et l'ennemi le sait, l'ennemi l'a vu. Et il a profité de tes faiblesses. Mais si tu fixes à nouveau les regards sur Jésus, plus rien ne viendra t'accaparer. Plus rien ne te détournera. Tu vas connaître à nouveau la joie de la victoire et l'allégresse dans ton cœur. Le dernier secret, c'est se confier en Dieu, lui ouvrir son cœur, se donner tout entier à Dieu, lui remettre sa situation, sa vie. J'aimerais vous raconter encore une histoire. Dans une usine, il y avait les portes ouvertes. Et il y avait tout un groupe. Et il y a un couple qui s'est approché d'une personne qui était en train de faire couler un alliage qui devait être à peu près à 1200 degrés. Alors, ils étaient épatés, ils regardaient ça. Puis la personne se tourne vers le couple, elle dit, vous savez, monsieur, vous trempez votre main dans l'eau, vous la mettez tout de suite en dessous, vous la passez en dessous, vous n'aurez rien du tout. Le monsieur dit, je vous crois, monsieur, je vous crois. La dame regarde cette personne dans les yeux. Elle relève sa chemise, elle lui donne sa main. L'homme trempe aussitôt la main dans l'eau, la passe sous le métal en fusion. Ce que l'homme avait dit s'est réalisé. Elle n'a absolument pas été brûlée. Elle n'a rien eu. L'homme s'adressa au mari. Et lui dit, vous savez, monsieur, vous m'avez cru sur parole. c'est honorable pour moi. Mais dit, votre femme a été plus loin que ça. Elle m'a confié sa main. Est-ce que vous comprenez l'histoire ? On doit nous confier. On doit se confier en lui. On doit lui donner sa vie. Nos enfants, nos familles, confier ce que nous possédons. Parce qu'il y a trop de gens qui croient Jésus sur parole et qui sont incapables de confier leur vie. Ils en sont incapables. Comme disait Jeannette, on confie sa vie et on garde ça. Et c'est ce petit ça qui va faire d'énormes dégâts. Il faut s'abandonner à Christ. S'abandonner. S'abandonner, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est engager sa foi. Je me laisse tomber dans les bras de Jésus. Il faut ce matin que tu sois vainqueur sur cette montagne, sur ce Goliath. Il faut lui confier cette montagne. Il faut lui confier ce Goliath. Parce que Christ a remporté la victoire. Ce matin, il faut que tu réagisses. Il faut réagir. Il est plus que temps. Et j'aimerais terminer par quelque chose d'un peu spécial. Je ne vous dirai pas pourquoi. Mais j'aimerais conclure par ces mots. On va prendre en Marc chapitre 10. Ça va mettre du temps parce qu'avec une main. Chapitre 10, versets 46 à 52. Vous le connaissez, c'est un passage qu'on connaît tous. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Cet homme réclame la délivrance. Il est sur le bord du chemin. Il supplie Jésus. Jésus dit une chose, appelez-le. Si on s'arrête là, on dit, bah d'accord, il va être guéri. Les disciples vont le chercher. Ils lui disent une phrase, et c'est cette phrase qui est très importante. Prends courage, lève-toi. Il t'appelle. C'est cette phrase que j'aimerais te dire ce matin. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Toi qui es peut-être au fond de l'église, sur ta chaise, ou au milieu de l'église, avec tes problèmes, recroquevillé, infoutu de voir Christ dans tes problèmes, Christ dit, prends courage, lève-toi, je t'appelle. Ça fait longtemps qu'il t'appelle. Ça fait très longtemps. Le problème, c'est que tu ne le regardes plus. Tu ne l'entends plus. Tu es assis au bord du chemin et tu pleures sur ton existence. Et ce matin, j'aimerais te dire que Jésus s'adresse à toi et te dit, prends courage, lève-toi. Confie-moi tes problèmes. Confie-moi ta vie. J'attends depuis si longtemps. Mais tu ne veux pas engager ta foi. Tu ne vois que la montagne qui est devant toi. Mais sache que je suis plus grand que ta montagne, plus grand que ton Goliath, plus grand que tes peurs. Je veux dès aujourd'hui te donner cette victoire que j'ai acquise à la croix. Mais pour cela, il faut te lever, venir à moi. J'ai vaincu le monde, j'ai accompli l'œuvre de mon Père pour que tu sois libre en moi et que tu connaisses une joie éternelle. Le Seigneur m'a mis à cœur un verset du psaume 119. Ce matin, ton cœur pleure peut-être de chagrin, mais Christ peut te relever selon sa parole. Si tu sais que ce matin, cette prédication te concerne, si tu sais que tu as des combats, n'attends pas. Bartimée s'est levé et il est allé à Jésus. Jésus lui a posé une question. Que veux-tu que je te fasse? Il y a des décisions à prendre dans nos vies. On dit qu'on a la foi. Est-ce que ce matin tu es prêt à engager ta foi? Est-ce que tu es prêt à nouveau à voir la victoire dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à affronter ton Goliath? Moi, je te dis que ce matin, dès aujourd'hui, Christ va être avec toi pour ce combat. Parce que si toi, tu l'as abandonné, lui ne t'a pas abandonné et ne t'abandonnera jamais. Seigneur, je te rends grâce. Parce que toi, tu as eu cette victoire à la croix. Et Seigneur, si on refuse cette victoire aujourd'hui, on déclare publiquement que tu es mort pour rien. Mais Seigneur, tu es mort pour nous, pour que nos vies soient remplies de joie et d'allégresse, mais pas une joie et une allégresse mondaine, mais une joie et une allégresse céleste. Parce que tu veux nous emmener vers l'éternité. Seigneur, je sais que ce matin tu as parlé. Seigneur, que ton esprit fasse son œuvre. Enlève tout ce qui est d'humain dans ce message. Garde la pointe de ta parole et transperce les cœurs. Que ceux qui sont touchés puissent se lever, s'avancer, parce que toi, tu as déjà les bras ouverts. Parce que tu nous aimes. Parce que tu connais chacune des circonstances de nos vies. Tu sais pourquoi on s'est assis. Tu sais pourquoi on pleure aujourd'hui. Mais tu veux la victoire dans nos cœurs parce que tu as été victorieux sur la croix. Parce que tu es tout puissant sur ce qui nous ravage aujourd'hui. Parce que tu es Dieu, au-dessus de tous ces dieux qu'on a pu mettre. Tu es l'Éternel, notre berger, celui qui paie nos âmes, celui qui nous dirige, celui dont on connaît la voix et qui nous appelle. Seigneur, que ta voix soit claire. Ta parole dit que ceux qui ont des oreilles puisse entendre ce que l'Esprit dit. Seigneur, que tu puisses parler avec puissance. Amen.